RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît de TV5 Monde, Stéphanie Hartmann, Africa numéro 1, et puis Fatimata Wansanya de France 24. Et c'est autour de trois sujets cette semaine. Le verdict du procès Hissène Habré à Dakar au Sénégal. L'ex-président tchadien condamné à la prison à vie pour de graves crimes commis sous son règne de fer. Et puis une première judiciaire en France avec un feu vert du parquet pour juger Théodorine Obiang, le fils du président équato-guinéen, poursuivi pour bien mal acquis. Et puis la Guinée-Bissau enlisée dans une nouvelle crise politique lourde de menaces. D'abord, l'ex-président tchadien Hissène Habré donc condamné à la prison à vie à Dakar par une juridiction panafricaine au terme de quelques 10 mois de procès. Le sujet est résumé par Ilan Taoufiki de TV5 Monde.
La Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.
Hissène Habré condamné à la prison à vie. Ces 25 années de combat contre l'impunité qui ont été récompensées pour les victimes du dictateur tchadien. Alors forcément, les nerfs lâchent.
C'est un sentiment de joie. Mais... je ne sais comment l'exprimer. C'est pas l'émotion.
Souleymane Gagne-Gagne a passé 2 années à subir les pires tortures. Ce fonctionnaire a été l'un des premiers à parler, à rendre cette condamnation possible.
Lorsque j'étais en prison et je réfléchissais déjà sur cette situation, et je me dis, qui suis-je vraiment pour réussir jusqu'à être survivant de ces torture et aujourd'hui gagne le procès contre Hissène Habré.
Hissène Habré s'est enferré dans son mutisme habituel et n'a pas scié à l'annonce du verdict. L'ancien dictateur tchadien a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, de torture et d'exécution, mais aussi d'esclavage et de viol suite au témoignage d'une victime. Habré à la tête du Tchad de 82 à 90, c'est un vaste système de répression contre les opposants réels ou supposés, puis contre les communautés du Sud. Un règne féroce qui aura fait près de 40 000 victimes.
C'est un message aux tyrans de ce monde que s'ils commettent des atrocités, ils ne seront jamais à l'abri de ces victimes. Mais je pense que c'est aussi un message d'espoir aux autres survivants, aux autres activistes qui pourraient dire voilà ce que les victimes de Hissène Habré ont fait. Ils ont tenu bon. Elles ont tenu bon pendant 25 ans. Nous, on peut faire ça aussi.
Habré fera-t-il appel? Ses avocats ne se sont pas encore prononcés. Après ces condamnations, va venir le temps des réparations. Les demandes des victimes vont être examinées, même si les juges doivent encore définir les procédures.
Voilà, et puis ce vendredi matin, au moment où nous enregistrons, on ne sait toujours pas si Hissène Habré va faire appel de cette première condamnation en première instance, Pierre Benoît. Donc 26 ans après son éviction du pouvoir en 1990, il a été rattrapé par la justice. Il a été jugé par des chambres extraordinaires, des chambres africaines extraordinaires, juridiction mise en place avec l'aval de l'Union africaine. Alors tout le monde salue cette première où un ancien dictateur a été jugé sur le sol africain. Et ce, par une juridiction panafricaine et sur la base de la compétence universelle, cette fameuse compétence universelle. Alors, il faut aussi saluer peut-être le rôle du Sénégal qui a accepté d'abriter ce procès, même si ça a été tardivement. Et puis, la ténacité des victimes, on l'a dit. Et enfin, celle des ONG, notamment de Human Rights Watch, dont on a entendu l'un des représentants, Rick Brody, s'exprimer dans le sujet il y a quelques instants, Pierre.
Oui, Hassan. Là donc, on a un événement historique sur le jugement par ses pairs africains d'un chef d'État, dictateur, avéré, 30 000 morts, etc. Tout le monde a suivi le procès sur TV5 et sur RFI et sur le continent, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc ça, c'est le premier élément, d'où l'extraordinaire satisfaction de l'ensemble de ceux qui, à Dakar, ont suivi le procès. Et puis, le deuxième élément, et là, je pense qu'il faut le souligner avec une très grande force, c'est la ténacité des familles des victimes, leur courage, le témoignage extraordinaire de cette femme qui a témoigné il y a quelques semaines pour viol, le fait que pendant des années, il y a eu des pressions sur les victimes, sur au Tchad, etc., et que tout ce mouvement, toute cette prise de conscience des victimes, ce courage extraordinaire qu'ils ont eu, a été canalisé et pris en charge par Human Rights Watch et les ONG qui ont porté ce mouvement-là. Et en ce sens, c'est doublement historique. Je pense qu'il y aura un avant et un après procès de Dakar.
Oui, Stéphanie.
Il ne faut pas oublier aussi que ce procès a été possible parce que Issa Nabré n'était pas au pouvoir, je le dis pour les dictateurs qu'ils sont encore au pouvoir, parce qu'il n'était plus au pouvoir et parce qu'il a été lâché aussi par ses alliés. Alors le pouvoir sénégalais il fut un temps, mais aussi la France et les États-Unis et Human Rights Watch justement... pointe du doigt le rôle de la France, prépare un rapport sur le rôle de la France, les relations entre la France et le Tchad sous la présidence d'Issa Nabré, et oui, ça pose alors, la question des complicités. La France a vendu des armes au régime d'Issa Nabré, il est temps aussi qu'elle fasse face à cette histoire et qu'elle assume ses responsabilités.
Alors, rappelons tout de même le contexte de l'époque, c'est que la France avait une seule hantise, c'était Muammar Kadhafi en Libye, Fatimata.
Il fallait tout faire pour bloquer l'influence et l'expansion de Kadhafi, qui lui, en plus, rêvait d'une espèce de d'États-Unis,
grande Libye,
d'une grande Libye et des États-Unis d'Afrique.
En absorbant le Tchad.
Exactement, en absorbant le Tchad. Donc, il fallait absolument renforcer la présence de la France au Tchad. Et donc, ces liens entre la DGSE et la DDS, donc cette fameuse Stasi tchadienne, police politique au service du régime d'Idriss Déby, est plus ou moins démontré. Hein.
Il y en a par Human Rights Watch, oui. Relation avérée.
Un des chefs de la DDS a d'ailleurs dit qu'ils avaient a déclaré à quel point leur lien était ténu avec la DGSE.
Et la CIA.
Et la CIA de notre côté. Donc les liens, quand même, sont assez clairs. Et puis il y a un autre acteur, quand même, excusez du peu, qu'on oublie, c'est Idriss Déby, qui lui était quand même le bras armé d'Issa Nabré, notamment au moment des massacres en 84. Mais là, bizarrement, voilà.
Il est absent des radars judiciaires.
Peut-être que l'explication, c'est aussi que cette justice, qu'elle soit ad hoc sur le continent africain ou à l'étranger, c'est-à-dire je parle de la CPI à La Haye.
C'est la justice des perdants,
exactement.
Finalement.
Exactement. Et ça ne concerne jamais, bien sûr, les vainqueurs.
Cela dit, donc ça doit arranger finalement beaucoup de monde que Issa Nabré n'ait pas desserré les dents tout au long de son procès, finalement.
Ah oui, ça, alors, ça absolument, c'est une des... D'ailleurs, il n'a pas voulu, souvenez-vous, avec quel, on va dire, aspect théâtral, hein, il a été amené de force, il n'a pas voulu de ses avocats, on lui a dû en commettre d'office, etc. Mais c'est lié aussi au personnage, hein, cet homme-là a aussi vécu de 90 jusqu'à son exil plus ou moins forcé, etc., sur le sol sénégalais, en toute quiétude. Il a quand même... pu vivre une vie de petit papy, entre guillemets, oui. Tranquillement, à l'insu de tous.
Un mot encore, il est enfermé dans le mutisme et son chèche sur la figure, sur la bouche, montre bien qu'il ne veut pas s'exprimer, qu'il ne dit rien et que personne ne peut l'atteindre, finalement. Donc voilà, il a eu un mot, à bas.
La France-Afrique.
Et donc là, finalement, il sait très bien de quoi il parle. Et donc c'est cette phrase-là qu'il faut retenir aussi.
Et qu'ils l'ont lâché.
Voilà. Voilà, et l'on passe à notre deuxième sujet, toujours dans l'actualité judiciaire, c'est ce feu vert en France du parquet national financier pour juger Théodorine Nguema, le flamboyant fils du président équato-guinéen qui est accusé de biens mal acquis, Pierre Benoît, Théodorine Nguema, Obiang Mangue, pour
son
nom complet, alias Théodorine, donc fait l'objet de plusieurs chefs d'inculpation, blanchiment de corruption, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux ou bien encore abus de confiance. Plus de 300 millions de dollars ont été retracés par la justice française. 300 millions de dollars donc présumés piqués dans la caisse de l'État équato-guinéen par ce jeune homme. Alors que les deux tiers de la population équato-guinéenne, les deux tiers vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors c'est quand même une première, là aussi, c'est la première fois que la justice française ordonne un procès dans le cadre de ces fameuses affaires de biens mal acquis qui visent plusieurs dirigeants africains.
Oui, absolument, c'est une première. Et puis, dans son arrêté, la Cour de cassation a trouvé une astuce, puisqu'elle dit, nous prononçons sur les activités de l'individu en question sur le sol français, et donc l'immunité juridique de son statut de deuxième vice-président du pays, donc numéro 3 de l'État, etc., etc., ne peut pas fonctionner. Il y a des choses qui ont été faites en son nom, en tout cas, par lui, en France, des achats frauduleux, des biens immobiliers et mobiliers qui ne correspondent pas à la légalité républicaine française, donc on attaque, etc. Donc, bon, c'est un petit argutie à souligner. Le fait est effectivement que c'est une première, c'est une avancée considérable, car dans la question, entre guillemets, des biens mal acquis, on a aussi d'autres pays concernés.
Qui sont visés.
C'est le Congo-Brazzaville, etc., etc.
Le train de vie de ce jeune homme, de M. Théodorine, était absolument délirant.
C'est un flambeur.
Des voitures... Des Rolls,
c'est un flambeur à l'ancienne,
des voitures de sport. On a vu d'ailleurs défiler à Paris ces bagnoles qui ont ensuite été vendues. Et ensuite, l'argent a été non pas restitué à la Guinée équatoriale, mais reversé au trésor français. Alors, il y en a qui disent il aurait fallu, Stéphanie, geler cet argent et attendre peut-être un changement de régime en Guinée équatoriale pour
tout à fait,
restituer l'argent au pays.
En effet, je pense qu'il faut restituer l'argent au pays. C'est un flambeur. Son majordome, pour montrer le peu de moralité dont dispose le jeune homme. Son majordome qualifie son train de vie en trois mots: prostituée, cocaïne et alcool. Donc voilà, pour résumer un peu le personnage, je le rappelle, deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, donc ça pose la question des politiques. Mais cela dit, il est plus facile pour la justice française de viser la Guinée équatoriale, qui est moins dans le giron france-africain, que s'adresser à Denis Christel Sassou Nguesso, oui, ou encore à la famille Bongo, où là, effectivement, des instructions sont ouvertes, mais patinent d'autant plus. Voilà.
Oui. On vise toujours les mêmes, mais quand il s'agit des monarchies du Golfe, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, on ferme les yeux sur les turpitudes.
On est très sélectif dans l'approche des dossiers. Moi, je voudrais rajouter quelque chose pour faire rebondir par rapport au premier débat sur Abré. Dans le cas de la Guinée équatoriale, effectivement, c'est assez important, non seulement que le procès, que l'affaire avance, même si on vient d'en montrer les limites, le périmètre, disons, sur le versant franco-français, parce que dans ce pays-là, s'il n'y avait pas eu des enquêtes de journalistes, s'il n'y avait pas ce procès en cours via des ONG, eh bien, il n'y a pas d'opposition. Elle est clouée,
oui,
elle est clouée au silence.
Mais l'enquête a été menée ici par des ONG.
Voilà, elle est clouée par le silence, parce qu'on disait tout à l'heure la force et la ténacité des opposants et des familles de rescapés, des victimes du système Abré. Là, il n'y en a pas. Et donc, c'est assez important aussi par rapport à l'évolution éventuelle du pays qui est complètement bloqué, où il n'y a plus d'opposition, où tout le monde vit dans la terreur.
Voilà, alors un mot quand même sur le fait que, Stéphanie, que ces affaires des biens mal acquis, que ça vise le clan Sassou Nguesso ou la famille Bongo, ou les Obiang, a quand même pas mal enrichi les cabinets d'avocats en France, à tel point d'ailleurs que des avocats africains exerçant en France râlent en disant, mais voilà, nos chers collègues s'enrichissent parce que les Obiang ont dû changer d'avocat maintes et maintes fois.
Ils vont chercher des avocats ici, c'est vrai qu'ils
sont rétribués avec l'argent qui continue à finalement être volé au pays.
C'était un cercle vicieux, tout le monde s'enrichit sur le dos des populations comme d'habitude, et c'est vrai que c'est dommage que ces gens-là ne sollicitent pas plus souvent des avocats africains. Il y a toujours le syndrome peut-être
du grand sorcier blanc. Toujours.
Mais je voulais préciser concernant les monarchies du Golfe que quand même ces plaintes pour bien mal acquis sont aussi des plaintes alors aidées par les ONG, mais de ressortissants de ces pays-là. Les Qataris n'ont pas déposé de plainte en France concernant.
Ils sont pas prêts d'en déposer en plus.
Parce c'est vrai que un oncle de Bachar al-Assad est lui-même l'objet de poursuites effectivement en France pour bien mal acquis, et je crois qu'on lui a confisqué terrain et hôtel particulier. Voilà. Et l'on passe à notre dernier sujet de cette édition d'Afrique Presse, et cette nouvelle crise politique dans laquelle se débat Pierre-Benoît la Guinée-Bissau. Elle a éclaté, cette crise, à la suite du limogeage par le chef de l'État José Mario Vaz le 12 mai dernier du gouvernement dirigé par Carlos Correa. Or, le Premier ministre ainsi que son équipe, qui sont soutenus par le parti majoritaire au Parlement, le PAIGC, qui est parti historique d'ailleurs, parti révolutionnaire, ont rejeté en bloc cette destitution qui viole donc normalement la Constitution. Entre-temps, un nouveau Premier ministre a été désigné. Il s'agit de Bassirou Dia, qui a certes prêté serment, mais qui n'a pas encore formé son gouvernement. Bref, Voilà le tableau et la crainte majeure est de voir et que ce bras de fer n'aboutisse une fois de plus à une boucherie, voire à des règlements de compte.
Oui, derrière cette opposition.
Ou un coup d'État comme le pays en a connu pas mal.
Oui, il y a beaucoup d'instabilité depuis la réforme constitutionnelle des années 90-2000. Écoutez, et derrière cette opposition entre le président qui a viré le Premier ministre pour mettre Dia, qui avait déjà été pressenti, finalement, ça dure depuis un an. Et qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue? Ben, d'un côté, le fait que l'administration d'État est aux mains du Premier ministre. C'est lui qui gère la machine. Je dis pas que le président actuel est un réformiste absolument radical, mais dès lors que on veut toucher à la question de la corruption et des trafics, eh bien, il y a crise. Et c'est derrière cette crise, cette instabilité entre le président et le Premier ministre, qui dure donc depuis un an, se joue la question de l'évolution par rapport à cette question de la lutte contre la corruption et la lutte contre le trafic de drogue. Il faut voir que la Guinée-Bissau est un archipel qui est propice à des petites plages, à des petites criques faciles où on peut aborder en bateau, où des avions peuvent atterrir. C'est une ligne de route.
Pour trafiquer la cocaïne en provenance de Colombie, notamment.
C'est une ligne connue des trafiquants, et que ce petit État n'a pas véritablement d'autonomie par rapport à l'importance de ces trafics qui sont pour une partie gérés, on le sait, puisque le chef d'État-major avait été tué. Ils sont gérés, ces trafics, principalement par l'armée.
Voilà. Et que ces barons de la drogue colombiens, Stéphanie, eh bien, utilisent les dirigeants politiques et militaires comme hommes de Paris.
Mais c'est ce que dit le dernier rapport du département d'État américain concernant les drogues sur la Guinée-Bissau. C'était en 2015, je crois, que l'armée est infiltrée par les trafiquants de drogue. On a même soupçonné le cartel colombien d'avoir été à l'origine de la mort du président Nino Vieira en 2009.
D'ailleurs, c'était un piège monté par les Américains. Il y a eu un piège monté par la DEA.
Quand Bubo Natchuto a été arrêté, je crois que c'est en 2013, mais je sais pas.
C'est ça, un amiral, oui.
Voilà, le contre-amiral, ils ont fait croire qu'ils avaient de la cocaïne à faire passer, et ils l'ont fait sortir des eaux territoriales, et ils l'ont attrapé à ce niveau-là. Donc effectivement, cette crise aussi, alors, selon les experts de ce pays, le pouvoir de 2014 est l'un des plus légitimes que le pays n'ait jamais connu. Donc le président José Mario Vaz dispose d'une grande légitimité. Pour l'instant, l'armée, même si elle est habituée aux coups d'État, elle a quand même été plutôt discréditée avec le dernier de 2012. Pour l'instant, l'armée se tient en retrait de cette crise. Elle attend, même si
il paraît que l'armée serait plutôt favorable au président, au président Vaz.
Justement, c'est ce qu'on dit. Dans ce pays, il faut bien comprendre que l'armée et la politique, ce n'est que deux faces, si vous voulez, d'une même pièce.
Donc, et souvent d'un même danger.
Et surtout,
c'est l'armée qui a pu pouvoir avec l'indépendance.
Et au cours de ça, alors. Plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a un parti qui est le PAIGC, qui est le parti indépendantiste monté et nourri aux idées avec Amílcar Cabral, qui est célébrissime sur le continent pour ses idées communistes et indépendantistes. Son demi-frère, Luis Cabral, a représenté la face politique donc de ce parti, a pris le pouvoir en 74 et... Quand il a été démis, justement, en 80, on a vu le renversement des équilibres du pouvoir, et le parti a été, si vous voulez, rapté, on va dire, par les militaires.
En tout cas, la crise, cette nouvelle crise que connaît la Guinée-Bissau, pose le problème finalement de ces États, de ces petits États qui n'ont aucun moyen, qui manquent de tout, et qui finalement sont à la merci soit d'aventuriers politiques, soit effectivement de
trafiquants de drogue. C'est vrai que la question des ressources est importante pour des petits États qui sont enclavés, qui ont un problème de ressources financières.
C'est le cas de la Gambie aussi.
C'est le cas de la Gambie. C'est pas le cas de la Guinée équatoriale, qui est une très grande puissance pétrolière, etc., etc.
Voilà, un dernier mot.
Je voulais juste préciser que la CEDEAO a quand même déployé une force en 2012, l'ECOMIB, qui a été renforcée en 2014, et qui là, pour le moment, ils surveillent le palais du gouvernement où est retranché Carlos Correa et ses ministres qui ne veulent pas démissionner.
Voilà, et puis rappelons également que des parlementaires de l'UMOA ont fait le déplacement de Bissau pour tenter de dénouer de cette crise, mais ces parlementaires sont plutôt pessimistes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Pierre Benoît, Fatima Atta, Juan Sagna et Stéphanie Hartmann, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5. TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.